Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans le deuxième épisode de Crème de la Crème. Pour ceux qui ont déjà entendu le premier épisode, vous le savez, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes pour parler de leur réussite. Et cette réussite peut être dans des domaines hyper variés, que ce soit dans l'entrepreneuriat, le sport, la gastronomie, je vais vraiment brasser très large, ça peut être la médecine, le blogging, c'est justement ça qui va m'intéresser d'aborder tous les sujets. Donc l'objectif est de partager avec vous les clés de la réussite de mes invités, parce qu'il y a bien des principes réplicables, j'en suis convaincue, pour arriver au succès, et que c'est comme ça que vous allez pouvoir les appliquer à vos propres projets. Alors ce deuxième épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir une personne que j'admire beaucoup, Quentin Obadia. Je suis vraiment ravie de l'avoir sur ce podcast. Il a été qualifié par Vanity Fair de bosseur low profile, parce que peu connu du grand public, donc j'imagine que c'est pour ça que vous ne connaissez pas son nom, mais pourtant, c'est l'une des stars du design de joaillerie et de haute joaillerie. Il a travaillé pour les plus grandes maisons, il est même devenu responsable du pôle création de Boucheron à l'âge de 22 ans, ce qui juste n'arrive jamais. Puis il est parti vivre une nouvelle aventure chez Lalique pour relancer la marque de joaillerie. Maintenant, il est à son propre compte, il travaille pour les plus grandes maisons de la place Vendôme et a franchi avec succès le pas de retrouver sa liberté en devenant indépendant. Bref, même pour des personnes qui ne sont pas dans le design ou dans la création, même pour des personnes qui ne cherchent pas à être à leur propre compte, franchement, ses réponses à mes questions sont juste passionnantes. Donc, en deux mots, dans cette conversation avec Quentin Obadia, on va parler du métier de créatif, bien sûr, de son obsession pour la transmission, de sa vision du talent aussi. Par exemple, comment faire pour devenir une éponge. Mais aussi, on va parler, par exemple, de vieilles bagnoles. Et alors là, ça va concerner certainement beaucoup d'entre vous. On va aussi parler du premier jour du reste de sa vie, le jour où il est devenu indépendant. Bref, c'est passionnant. Je vous en dis pas plus et je laisse la place à ma conversation avec Quentin Obadia. Bonjour Quentin.
Bonjour Pauline.
Quentin, ça me fait très plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'être venu chez moi, c'est très gentil. Donc Quentin, tu es designer de joaillerie.
Exact.
Tu as travaillé pour beaucoup de maisons de joaillerie, ça j'en ai parlé dans l'introduction. Et ça m'intéressait de commencer par savoir tout simplement comment tu avais su que tu voulais être designer un jour.
Alors, comment j'ai su ça? Déjà, j'ai toujours dessiné depuis vraiment tout petit. Et un jour, mon père, je me souviens d'ailleurs très bien de ce moment, un jour, mon père m'a dit, tiens, j'ai appris qu'il y avait un métier où on pouvait dessiner des objets. Et à l'époque, ça s'appelait du dessin industriel, parce que le design n'avait pas encore été, en tout cas, le terme n'avait pas encore été inventé. Et c'est ce jour-là, donc, que j'ai su plus ou moins que je voulais faire ce métier. Et ça m'a jamais quitté.
Et alors, c'était quel type d'objet à l'époque que tu voulais dessiner?
Des voitures.
Des voitures. Ouais. Mais c'est une très belle transition parce que j'allais te parler de Sabrina,
ah, Sabrina
et Sabine. Est-ce que tu peux me parler un peu de Sabrina et Sabine?
Sabrina et Sabine sont mes deux premières voitures. J'ai une passion un peu honteuse qui est les voitures des années 80. Et donc, Sabrina était une Talbot cabriolet rouge, un peu vulgaire, d'où son nom, Sabrina. Je m'excuse pour toutes les Sabrina qui écoutent.
Elles ne t'en feront pas, t'inquiète pas.
Enfin, je ne sais pas toi, mais d'ailleurs, moi, je n'en connais pas.
Non, c'est vrai qu'en France, c'est peu fréquent.
Ouais, c'est ça. Et Sabine était une R5, pareil, des années 80, qui était magnifique, qui avait très très peu de kilomètres, qui avait dormi dans un garage très longtemps, trop longtemps peut-être, puisqu'elle ne marchait pas très bien.
Bah oui, je crois que tu as une petite histoire d'ailleurs que tu m'avais racontée à ce propos, il me semble un petit voyage, non, où tu avais eu des soucis.
Oui, tout à fait. Nous avions pris la voiture pour partir en week-end et... Et la voiture est restée là où nous l'avions amenée, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle un joint de culasse. Et ce joint de culasse a été aggravé. J'ai fait un certain nombre d'allers-retours pour tenter de la récupérer, et à chaque fois, elle retombait en panne. Et voilà, une histoire un peu tragique, puisque ensuite, elle a été prise en otage par le garagiste.
Qui ne voulait plus te la rendre, mais elle était tellement belle en plus.
Non, c'est surtout qu'il en avait marre de la réparer, donc, donc il ne voulait plus nous la rendre. Mais j'ai fini par la récupérer et puis la vendre, surtout.
Et alors, d'où vient cette histoire d'amour avec les vieilles voitures des années 80, cette passion honteuse, comme tu dis ?
C'est une bonne question. Je pense. Alors déjà, j'aime les voitures d'une manière générale. Je pense que l'automobile, ça m'évoque un sentiment de liberté, de puissance aussi, une certaine maîtrise. Même si les voitures dont je parle, c'est vraiment pas du tout des voitures puissantes et précises d'ailleurs. L'automobile d'aujourd'hui, je trouve qu'on est en train d'essayer, on est en train d'évacuer toute la partie émotionnelle qui a trait à l'automobile, pour le meilleur probablement, puisque l'idée c'est de réduire les morts sur la route. Mais voilà, du coup, les voitures d'aujourd'hui, nous conduisent plus qu'on les conduit. Alors que les voitures des années 80, il y a quelque chose d'assez vrai dans la manière de les conduire. On sent la route, on sent l'essence. J'ai vraiment des souvenirs de quand j'étais enfant où je pouvais rester derrière les voitures en fonctionnement. J'adorais les odeurs de fumée des voitures des années 80, parce que c'était avant l'époque catalytique, donc ça donnait une odeur particulière. Donc ça me vient de cette période-là, ça me vient de mon enfance, me vient du fait que j'en dessinais. Vraiment, c'est la première chose que j'ai dessinée. Je crois même que j'ai dessiné des voitures avant de savoir parler et marcher. Et d'ailleurs, si ma mère était avec nous aujourd'hui, elle nous raconterait cette fameuse anecdote de ma première semaine à la maternelle, où ma maîtresse l'a convoquée pour qu'elle vienne voir les dessins des élèves. Et elle a demandé à ma mère si elle reconnaissait mon dessin. Et évidemment, elle l'a reconnu, puisque c'était le seul dessin avec plein de voitures. Donc, voilà.
Donc c'était une vocation, super. Je trouvais ça intéressant de commencer par là, et assez rigolo, parce que tu es donc un designer de joaillerie,
oui,
qui est donc un secteur plutôt, je dirais pas féminin, mais en tout cas, les objets sont en général plutôt des objets féminins, même si c'est très technique.
Oui, étonnamment, c'est quand même... D'ailleurs, c'est pas très important, mais c'est quand même un métier qui, historiquement, est plus un métier d'homme. Pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, désolé pour toutes les femmes, encore une fois, je pense que des femmes sont... Certaines femmes peuvent avoir un regard technique, je n'en doute pas, mais en tout cas, historiquement, pour le côté travail d'atelier, c'est vraiment un travail d'artisan, un travail à la main, et c'est un travail assez masculin, aussi parce qu'on se salit beaucoup, parce qu'on... Voilà, comme tout travail, tous les endroits où on travaille du métal. Mais oui, c'est un métier qui est assez éloigné de ma première destination, qui était le design automobile, qui est éloigné. Mais en même temps, finalement, quand on réfléchit à ma pratique de l'automobile, il n'est pas si éloigné, puisque ce que j'aime dans mon métier, c'est l'idée de créer des choses qui sont un peu hors du temps. Et c'est ma manière d'utiliser mes voitures, puisqu'elles ont toutes 40 ans.
Elles sont hors du temps, elles ne fonctionnent
elles
plus.
Elles sont hors du temps, certaines fonctionnent encore. Non, mais j'aime bien l'idée. J'ai toujours, d'ailleurs, c'est toujours quelque chose qui m'a, même avant que je me prédestine à la joaillerie, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, cette idée qu'un objet, tous les objets peuvent être éternels en fait. Ils nous survivent souvent. Ils échappent d'ailleurs très souvent à la raison pour laquelle on les avait conçus, aux tendances esthétiques en cours au moment de leur conception, pour devenir autre chose. Et souvent on a beau concevoir des histoires qui permettent de les mettre au monde, et c'est encore plus vrai pour les bijoux, dès qu'ils sont achetés, ils sont achetés et ils constituent une histoire. Il existe du coup un lien très fort entre la personne qui l'offre et la personne qui l'achète et l'objet. Et en fait, ça devient... Je sais pas si vous me comprenez.
Si, on te comprend très bien.
En tout cas, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a une histoire qui se crée entre la personne qui voit l'objet et ensuite la manière dont il va le vivre et dont il va le porter.
Bah, écoute, en tout cas, j'espère que les personnes qui maintenant vont voir des vieilles voitures des années 80, après avoir entendu ce podcast, vont les voir différemment.
J'espère aussi.
Qu'il faut qu'elles les vivent aussi.
J'aimerais d'ailleurs rétablir la réputation des véhicules des années 80, que tu essayes d'ailleurs de saper. Et non, les voitures des années 80 ne sont pas toujours en panne.
Et alors, si on revient un petit peu à la vocation et à la façon dont tu es devenu designer, tu m'as dit que tu n'étais donc tu habitais quand tu étais plus petit en province. De mémoire, tu habitais en Auvergne, si je ne me trompe pas. Et je voulais savoir, du coup, comment ça s'était passé. Donc, tu dessinais beaucoup, mais concrètement, à quel moment est-ce que tu as pris la décision que tu voulais en faire un métier et comment ça s'est passé?
Je suis né à Colmar, ça c'est important.
D'accord,
ça n'est pas l'Auvergne. Et ensuite, j'ai grandi en Auvergne. En fait, le dessin, ça a toujours été un mode d'expression important pour moi, peut-être plus que le langage. Ça a été ma vie en parallèle de tout le reste, en parallèle de ma famille, en parallèle de mes études. C'était vraiment mon jardin secret. Et en fait, j'avais une amie au lycée qui aimait dessiner elle aussi. Elle m'a embarqué dans les portes ouvertes des écoles d'art parisiennes, alors qu'on était donc en Auvergne, ce qui n'était pas forcément hyper accessible a priori. Donc on allait faire ces portes ouvertes, on a passé les concours, on a réussi les concours, et on est parti à Paris, et je me suis lancé là-dedans. En fait, mon métier, j'ai pas l'impression d'avoir pris la décision un jour de le faire. Il a été une évidence parce que j'aimais dessiner, parce que c'était vraiment mon monde. Donc c'était juste tout à fait logique comme chemin.
T'avais des personnes dans ta famille qui designaient ou qui dessinaient même ?
Alors personne n'en avait fait son métier, tous les hommes de ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, ont toujours dessiné. Ils ont tous d'ailleurs abandonné le dessin dans leur vie d'homme. Ils ont dessiné dans leur jeunesse, mais ils ont abandonné. Voilà, pas moi.
Mais c'est vrai que c'est le genre de métier qui est tellement dur, parce qu'on se dit tout le temps qu'il y a assez peu de place. Ça peut être, non pas décrié, mais en tout cas, je dirais que quand t'es dans une famille, les parents ont toujours peur que tu ne trouves pas un métier, que tu galères, etc. Et donc, tous les métiers artistiques, j'imagine que pour dire à ses parents, je veux devenir designer, je veux devenir d'une certaine manière un artiste ou un créatif, même si tu peux travailler en entreprise et être créatif ou être artiste, j'imagine que c'est pas facile. Ça a été dur pour toi, justement, de le dire, ou en fait, c'était très naturel parce que t'avais tellement tout le temps dessiné que finalement, ça s'est fait.
Oui, je pense que ça n'était pas une grande surprise pour eux, et puis c'était plutôt logique par rapport à ce que j'étais. En effet, après il y avait quand même des jalons qu'il fallait que je passe. La contrainte était de marcher un peu dans les pas de ma sœur qui était extrêmement brillante. Donc il fallait que je passe le même bac, que je m'assure. La possibilité d'un retour en arrière si j'y arrivais pas. Donc j'ai passé un bac S option maths.
Dis donc, tu dois être l'un des rares designers. Mais je savais que tu étais très technique.
N'est-ce
donc
pas
ça, je comprends mieux les vieilles bagnoles.
C'est ça, exactement. Non, mais contrairement à ce qu'on croit, le métier du design demande cette technicité. Parfois.
On va en parler.
Ouais. Donc voilà, j'ai quand même dû passer ces jalons. Mon père m'a demandé de passer des écoles au concours des écoles d'ingénieurs. Donc il fallait quand même que je prouve que c'était possible. Et j'ai fait ça. En fait, les concours d'écoles d'art sont assez tôt dans l'année. Donc je savais que j'étais pris assez tôt, ce qui fait que j'ai passé le reste, d'ailleurs y compris mon bac, avec beaucoup de détente, puisque
ça, je vais pas le laisser passer. Je pense qu'il y a une histoire derrière.
D'ailleurs, c'est pas exactement vrai, parce que je savais que la seule contrainte, c'était que j'ai mon bac. Après, je voulais quand même prouver à ma famille et prouver d'ailleurs à moi-même que je pouvais être bon. Donc non, j'ai quand même fait en sorte, j'ai quand même travaillé. Surtout que c'était, donc comme vous l'aurez compris, pas exactement ma zone de confort, la spécialité maths du bac. Donc ça m'a quand même demandé des efforts.
Très bien. Et alors, quand t'es rentré dans quelle école à Paris ?
Alors, j'ai commencé par Olivier de Serres, qui est dans le groupement des écoles publiques d'art appliqué parisienne, donc comme l'école Boulle, Estienne, Dupéré, qui ont donc chacune de ces écoles a une spécialité. Par exemple, Dupéré, c'est le stylisme, Boulle, c'est l'ébénisterie, et Olivier de Serres, c'est plutôt à la fois la communication visuelle et le design d'objets. Et j'ai commencé par ce qu'on appelle une mise à niveau en art appliqué. Donc c'est là, en fait, quand on vient d'un cursus général, c'est l'étape un petit peu obligée pour aller dans les écoles d'art, sachant qu'il y a des chemins plus directs quand on fait des bacs art appliqués, par exemple, ou quand on fait d'autres prépas avant. Donc c'est ce que j'ai fait à Olivier de Serres, cette mise à niveau en art appliqué. Donc c'est un an où on travaille toutes les matière, voilà, le dessin principalement, le dessin de nu, la sculpture, et on apprend à conceptualiser. C'était la découverte du concept, c'est une grande découverte dans ma vie. Le premier sujet qu'on a eu, c'est de s'appeler le non-sujet.
Donc tu devais dessiner un non-sujet.
Alors c'était même plus large que ça. C'est-à-dire ça ne se limitait même pas à un médium. C'est-à-dire que ça pouvait être de la photographie, ça pouvait être une performance, ça pouvait être tout ce qui était un non-sujet.
Et quel a été ton non-sujet ?
Alors justement, je me suis dit, tiens, tu t'es lancé dans un truc, je ne me souviens plus ce que j'ai fait.
Donc c'était un réel non-sujet.
C'était un réel non-sujet, en tout cas il l'est vraiment devenu, du coup.
Très bien, très bien. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période où j'imagine que ça devait être formidable pour toi de te plonger pour la première fois à corps perdu dans ce que tu aimais faire, à savoir le dessin et la création. Quels sont les premiers enseignements que tu as tirés de cette expérience et qu'est-ce que tu as appris en réalité ? Comment tu l'as appris au départ ?
Alors c'était pas facile parce que encore une fois le dessin c'était mon truc et puis en fait personne me disait comment le faire ou quoi faire ou j'avais rien à prouver, donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début puisqu'il fallait réapprendre les bases. C'est comme toute discipline, je pense, quand on l'apprend par soi-même on prend des mauvaises habitudes. Ce qui a été le plus difficile, c'était d'apprendre à regarder, puisque le premier travail, notamment par exemple dans le dessin de nu ou la sculpture, avant d'interpréter, il faut savoir regarder, il faut comprendre qu'une forme, et ça c'était vraiment encore d'ailleurs quelque chose que j'utilise beaucoup aujourd'hui, une forme ne se définit pas par son enveloppe, mais par ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire par exemple le corps. C'est pas la peau qui fait le corps, c'est les muscles. Donc, c'est les muscles, c'est les os. Donc, c'est ça qui va créer les volumes. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que toutes les formes qu'on peut créer, quand elles sont belles et harmonieuses, quand elles sont construites. Voilà, ça, c'était un grand enseignement que j'utilise donc toujours aujourd'hui.
Ben, j'imagine. Et donc, après cette année de mise à niveau, tu es passé dans une autre école, je crois, c'est ça ?
Oui, ensuite, je suis allé à Strat Collège, qui est donc l'école qui est spécialisée dans le design automobile. Donc, voilà, jusque-là, je suivais la route que j'avais envie de suivre depuis toujours.
Donc, à l'époque, tu pensais que tu allais être designer automobile, ou c'est ce que tu voulais ? C'était ton objectif, ouais, d'accord ?
Exactement, c'était vraiment mon objectif. Et puis, plein de choses se sont passées à ce moment-là. L'enseignement m'a pas tellement plu parce que j'avais du mal à entrevoir quel allait être mon métier. Je comprenais que avant d'avoir une manière intéressante d'approcher le design automobile, ça allait prendre vraiment beaucoup beaucoup de temps, que généralement on était sur des petits bouts de la voiture, des petits bouts de
oui, voilà. Toi, ton rêve d'enfant de designer une voiture de A à Z, en fait, tu le voyais pas
voilà,
tellement
arriver. Voilà, dans la vraie vie, ça n'existe pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était les concept cars, une réflexion en fait plus globale sur l'automobile, sur le mode de transport, sur voilà. Et bon, ça me paraissait vraiment difficile à atteindre, et puis en fait, ça me plaisait de moins en moins. Et c'est aussi une période où d'un point de vue personnel, se sont passées beaucoup de choses pour moi, notamment la mort de ma grand-mère j'ai quitté mes parents assez tôt, j'ai vécu avec elle beaucoup, et elle est morte juste à ce moment-là, dans mes bras, et ça m'a beaucoup perturbé, et en fait ma relation à l'objet, à cette idée, à la mort en fait aussi, tout ça, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose dans la création qui est du côté de la vie, et beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là. Quand on y réfléchit, dessiner, c'est c'est donner corps à une idée, à quelque chose qui ne vit pas. Voilà, donc ça, tout ça, ces réflexions m'ont beaucoup habité à ce moment-là. Et donc, ça a été d'ailleurs le sujet de mon diplôme, en fait. Cette idée de la vie, du alors il se trouve que ça a été un bijou, mais avant ça, c'était surtout une réflexion sur qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on laisse, pourquoi comment les objets nous survivent, pourquoi ils nous survivent, est-ce que on peut anticiper dans leur conception leur rapport à l'homme et quelle empreinte on peut laisser sur l'objet. C'était toutes ces questions-là. Et en fait, mon diplôme est devenu un bijou. C'était assez logique.
C'est vrai que dans cette idée de transmission et d'éternité, on fait rarement mieux que le bijou.
Alors, c'était un bijou particulier, puisque c'était un bijou qui utilisait un mécanisme horloger, c'est une masse oscillante, donc un mouvement mécanique. Donc vous savez, les montres mécaniques, elles utilisent l'énergie cinétique, c'est-à-dire le mouvement qu'on produit.
C'est son petit côté technique, là.
Exactement. L'énergie cinétique pour la transformer, enfin l'accumuler et puis ensuite la délivrer de manière régulière et donner l'heure, entre autres. Mon bijou donc possédait un mécanisme horloger, accumulait aussi l'énergie produite, mais il la transformait en un mouvement. C'est comme les automates. Les automates, c'est des vieux objets qu'on utilisait, enfin qui étaient créés. Enfin, à la Renaissance, par exemple, d'autres époques qui se sont un peu perdues aujourd'hui. Mais donc, c'était comme un automate qui délivrait, une fois la quantité d'énergie et de vie produite, délivrait un mouvement, une gravure, quelque chose. Donc, c'est un bijou un peu particulier.
D'accord. Et donc, c'est toi qui as fait le choix, finalement, de la joaillerie. C'est toi qui as fait ce choix. Alors, à ce moment-là.
Est-ce que c'était en fait c'était l'objet en lui-même était logique par rapport à ma problématique, c'est-à-dire cette idée de la transmission. Ce choix s'est imposé à moi et voilà, il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Donc j'ai exposé en fait l'école expose les diplômes des jeunes diplômés et il se trouve que la directrice artistique de Boucheron de l'époque est passée voir les diplômes. Et donc, a repéré mon projet et m'a demandé de travailler avec elle en stage au départ. Ce qui a fait le plus grand bonheur de ma mère, hein, parce que j'étais diplômé. Et donc, j'aurais dû trouver un travail, mais je n'avais trouvé qu'un stage. Donc, ça a été un peu compliqué à lui faire admettre. Mais elle m'a donné un sursis de quelques mois pour trouver un travail. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé dans la joaillerie, et c'est comme ça que j'ai commencé dans une grande maison, très vite, d'ailleurs sans avoir absolument conscience du privilège qui m'était fait de pouvoir entrer dans cette institution.
Oui, parce qu'il y a finalement très peu de designers quand même dans ce genre de maison, enfin, qui sont même en stage, au final, c'est pas non plus...
Alors déjà, c'est un métier qui est très traditionnel, comme tu le sais, qu'il était encore plus il y a quelques années, hein, parce que je me fais vieux maintenant. Donc il y a une dizaine d'années, ne pratiquaient le bijou que des gens qui avaient été formés au bijou.
Donc tu veux dire que les designers étaient nécessairement aussi des personnes qui avaient travaillé le bijou, qui avaient été artisans d'une certaine manière ?
Alors déjà, les designers n'existaient pas dans la joaillerie, c'était des dessinateurs. Et les dessinateurs avaient fait la formation idoine, c'est-à-dire soit l'école Boulle, soit l'école du Louvre. En général, le dessin était un service qui appartenait à l'atelier et qui était considéré comme un moment technique de la conception du bijou. D'ailleurs, quand je suis arrivé chez Boucheron, je ne faisais pas partie de l'équipe de création, je faisais partie de l'équipe marketing. Et l'idée, c'était de travailler sur le concept des 150 ans. Pour la petite histoire, Boucheron fête donc ses 160 ans cette année, ce qui donc ne me rajeunit pas.
Voilà, donc on comprend mieux quand tu es arrivé chez Boucheron.
Exactement. Et donc, j'appartenais au service marketing et l'idée, c'était de travailler le concept, le fameux concept. Sauf que là, c'était pas le non-sujet. Le sujet, c'était les 150 ans de la marque. Comment conceptualiser la marque, la raconter de manière différente et en fait, de faire un peu le lien entre l'histoire, le concept et le produit. Puisque donc, le service création était à l'atelier à l'époque et mon rôle était de jouer un peu le trouble-fête dans ces équipes-là.
Et alors justement, quand tu as une maison avec 150 ans d'histoire, que tu arrives, que tu es jeune designer, certes en stage, Comment tu fais pour à la fois réussir à engranger toute cette histoire et en même temps apporter ta pierre à l'édifice, parce que j'imagine que c'est aussi ce que tu devais faire dans ce cadre-là.
Oui, c'était ce que je devais faire. Après, pas conceptualiser comme ça, parce que j'étais très jeune, je pensais pas du tout. Enfin, mon objectif n'était pas d'apporter ma pierre à l'édifice. Mon objectif était de répondre à la question qu'on me posait. Et j'avais en fait, une vraie boulimie créative. Je me suis plongé dans les archives, j'ai lu, j'ai trouvé plein d'histoires géniales à raconter, notamment le fait que, donne un exemple, Boucheron a été curateur du trésor de Perse, ce que personne ne sait en fait. On l'a appelé pour venir. C'est la seule personne qui a vu de ses yeux vus le trésor de Perse. On lui a fait jurer de ne jamais décrire ce qu'il avait vu, sinon on l'aurait rendu aveugle. Enfin, c'était quand même quelque chose. Je trouvais que c'était une histoire parmi d'autres histoires qu'on aurait pu raconter à cette période-là. J'ai découvert ce monde. J'ai découvert ces histoires et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Et mon objectif, c'était, je n'avais même pas d'objectif d'ailleurs, c'était plutôt une envie de raconter ces belles histoires.
Et de les raconter en dessin. À l'époque, tu dessinais.
Les raconter en dessin. Alors, à l'époque, je dessinais, mais pas du tout comme il fallait, puisque je n'avais pas appris le métier et le dessin de bijoux. Donc, je dessinais comme un designer, c'est-à-dire je faisais des croquis et des croquis de concept. Ce que j'ai dessiné était loin d'être fabricable, mais voilà, ça donnait des idées. Et puis après, on travaillait avec les équipes de création pour mettre tout ça en bijoux. Et puis c'était un peu le deal en fait. Moi je leur apportais les méthodes de créativité, un regard plus que frais, candide sur le métier. Et j'apprenais dans le même temps le dessin de bijoux, puisque faut savoir que c'est quand même très particulier.
Ouais, très technique. Bah, surtout que toi, tu as fait aussi, après on en parlera, mais de la haute joaillerie, où là pour le coup ça devient très très technique.
Encore plus. Bah, d'ailleurs, j'ai appris ça chez Boucheron. Ça a été l'autre, vraiment des grands moments. C'est bizarre de parler comme ça, mais un grand moment fort de ma vie professionnelle. Le moment où ma boss de l'époque me dit tiens, tu vas travailler sur la prochaine collection de haute joaillerie. Bon, pour ceux qui ne savent pas, la haute joaillerie, c'est le saint graal du métier. Ce sont des pièces uniques, extrêmement chères. Ça avoisine en général le million d'euros, avec des pierres exceptionnelles. Et donc moi, j'avais 22 ans, 23 ans.
Enfin, ce qui n'arrive jamais, on peut le dire.
Non, ça n'arrive jamais.
En général. Et tu peux me raconter, je connais l'histoire, mais tu peux me raconter comment ça s'est passé, justement, ce moment où elle est venue te chercher?
Oui. Donc, pour le fun, elle m'a demandé de dessiner sur cette collection le thème qu'on avait choisi. Je ne sais pas s'il était déjà très clair à l'époque, mais en tout cas, ce vers quoi on s'orientait, c'était de raconter les cocottes du Paris de 1900, donc les grandes allongées, comme on dit. Tu ne savais pas ?
Non, je ne connaissais pas.
Les grandes allongées, c'était les femmes qui dominaient, qui régnaient sur Paris à l'époque. Il faut savoir que les femmes d'influence n'étaient malheureusement pas les épouses, mais les maîtresses, qu'elles se partageaient d'ailleurs les hommes influents.
Et d'ailleurs, Boucheron est assez connu pour avoir eu beaucoup de clientes maîtresses qui passaient par les corridors secrets. Enfin, en tout cas, c'est l'histoire qu'on raconte.
Exactement. A priori, elles n'étaient pas les maîtresses de M. Boucheron, elles étaient les maîtresses de ses clients, clair, faudrait quand même pas qu'on ait la famille Boucheron sur le dos. C'était les maîtresses de ses clients et en effet, ils avaient dans la boutique un cabinet secret qui permettait aux amants de disparaître secrètement. Et donc, ma boss me dit, tiens, tu vas travailler là-dessus, fais des croquis, un peu pour le fun, pour apprendre, quoi. Et visiblement, elle aime bien ce que je fais et elle me dit, bon, en fait, à l'époque, c'était donc Jean-Christophe Bédos qui était le président de Boucheron et qui choisissait les dessins. Et donc, la première étape, c'est de réunir les dessins des créas et puis de lui présenter en croquis. Et donc, je fais mes croquis et ma boss décide de les mélanger avec ceux des dessinatrices. Et Jean-Christophe choisit tous mes dessins.
Bravo.
N'est-ce pas? Non, c'est encore une fois, je n'ai à ce moment-là aucune conscience de ce qui m'arrive. Je suis juste content. Je suis content parce que j'apprends. Je suis content parce que Jean-Christophe m'avait fait confiance en m'embauchant. Oui, parce qu'on a passé l'étape où je passe de stagiaire à un designer. Et puis, suite à cette collection, d'ailleurs, il m'a confié la responsabilité du design de tous les, la partie joaillerie et la partie horlogerie. Voilà, j'étais juste content de remplir le contrat et qu'il ne regrette pas de m'avoir fait confiance. Et surtout, j'allais apprendre parce que bon, c'était pas le tout que mes dessins soient choisis. Maintenant, il allait falloir les fabriquer et faire une collection dans les contraintes habituelles. C'est-à-dire que le fait que je sois jeune et que j'y connaisse rien n'allait pas être une excuse pour sortir une mauvaise collection ou la sortir trop tard. Et du coup, ça aussi, ça a vraiment teinter la manière dont je travaille aujourd'hui, puisque ce qui a été absolument nécessaire, c'était de devenir une éponge pour comprendre, apprendre vite, c'était de faire confiance aussi, être à l'écoute des dessinatrices qui m'apprenaient à dessiner, qui m'apprenaient comment tout simplement arriver à montrer que telle pièce était en boss, telle pièce était en creux, comment on gérait la lumière, comment on la représentait, et puis ensuite d'être à l'écoute de l'atelier qui m'explique ce qui est fabricable, ce qui n'est pas fabricable, quand ça tient pas, quand c'est trop lourd, quand ça se porte mal, quand ça se positionne mal. Tout ça, c'est des choses qui sont pas si évidentes. Et voilà, j'ai eu de la chance de l'apprendre des meilleurs. Et aujourd'hui, ça teinte vraiment la manière dont je travaille. J'essaie vraiment d'être à l'écoute de la technique, même si évidemment, maintenant j'ai plus d'expérience. Mais voilà, c'est très très important d'être dans l'échange.
Mais j'allais te dire que ce que je trouve hyper intéressant et assez inhabituel d'une certaine manière, c'est que beaucoup de designers se voient, ou on a l'impression que beaucoup de designers se voient comme une sorte de diva, ou en tout cas la création est au-dessus des contraintes. J'ai l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est que les contraintes, il faut les prendre en compte, que la technique fait partie intégrante du design et de la création. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? J'ai l'impression que ça fait partie de ce que tu fais.
Oui, après, je ne sais pas s'il y a une manière de faire ou si... voilà, je ne suis pas de ceux qui sont touchés par la grâce divine au moment de créer. Ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je vois la création comme une équation qui prend tout un tas de paramètres. C'est mon côté
voilà, c'est le matheux qui revient. Ça.
Non, mais probablement que ça a un rapport. Mais pour moi, c'est une... Et puis surtout, mon métier, je ne suis pas un artiste, je suis un designer. Mon métier, c'est de créer. En fait, le design, c'est dessiner à dessin. Donc, c'est créer en vue d'un objectif, qui est en général, d'ailleurs, un objectif mercantile. C'est pareil pour le bijou, même si, bien sûr, il y a une dimension artisanale et peut-être artistique plus forte que dans d'autres secteurs. Mais il n'en reste pas moins que ce bijou, s'il sera porté, ce bijou, il doit créer une émotion, il a un objectif, il doit parler de la marque, il doit la représenter, il doit raconter une histoire. Et donc, tout ça, ce sont les paramètres de ma création. Et bien sûr, comme tu le disais, oui, les paramètres techniques. Moi, c'est vraiment... mais d'ailleurs, on me demande souvent quel est mon style. Et... je trouve, voilà, j'espère que je n'en ai pas en fait. J'ai une manière d'aborder les marques pour qui je travaille. J'ai une manière d'interpréter les problématiques qu'elles ont. J'ai une connaissance du marché. J'ai une connaissance de mes différents clients. Et mon objectif, c'est de faire parler les marques. C'est pas de parler moi-même. Le jour où j'aurai envie de raconter quelque chose pour moi, je montrerai probablement ma marque. Mais voilà. Donc non, je ne crois pas être cette diva. Je ne crois pas. Parce que je pense que, encore une fois, ma manière de créer, elle nécessite de l'écoute. Elle nécessite... J'aime le doute. Je ne trouve pas que la certitude soit source de créativité.
Et alors du coup, comment tu fais pour que ça se passe concrètement? En général, tu commences quand même par un dessin, une idée, un concept, comme tu disais, et ensuite tu vas voir des personnes autour de toi pour te faire challenger, des techniciens, d'autres dessinateurs éventuellement, ou dès le début, en fait, tu en discutes. Comment ça se passe concrètement?
Je sais pas s'il y a une règle absolue, je pense que ça dépend vraiment des questions qui me sont posées. Parce que mon métier est en fait assez vaste. Il y a des créations qui sont ex nihilo. Il y a des créations où il faut interpréter des choses existantes ou réinterpréter des archives, par exemple. En général, c'est quelque chose d'un peu... alors, c'est la partie un peu mystique de mon travail, de l'équation. Je pense qu'il y a... L'idée, c'est de rentrer en connexion avec la marque, d'essayer de la comprendre comme si c'était une personne, de dialoguer avec elle, d'essayer de voir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, ce qu'elle peut dire, pas dire, là où elle a des manques, voilà, d'essayer de l'interroger. La première, c'est un peu ce dialogue que j'ai avec la marque. Ensuite, c'est effectivement de travailler. Aujourd'hui, je suis consultant pour des marques, donc je suis plus à l'intérieur. C'est un petit peu différent comme approche. En général, on vient me voir avec une question. Donc l'idée, c'est de comprendre les contours de cette question. Et ensuite, oui, de dialoguer. Alors, le dialogue, c'est des mots. Et puis, ensuite, c'est des dessins, c'est des premiers sketchs. C'est essayer de définir le contour d'une réponse. C'est souvent là qu'on voit la limite du dialogue et des mots. C'est voilà, parler d'une forme, c'est compliqué. On n'a pas tous la même interprétation d'une forme. Donc, le dessin est nécessaire, même dans le dialogue. Et ensuite, petit à petit, ça se construit. On affine et le produit prend forme, le bijou prend forme.
Est-ce que tu peux me dire ce qui fait pour toi que certains dessins sont réussis ? Qu'est-ce qui fait le succès d'un dessin pour toi ?
Alors déjà, c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure, une forme est belle, je crois, quand elle est construite. C'est-à-dire qu'il faut, une forme née d'un mouvement, née d'une construction. Déjà, alors c'est valable pour un bijou. Le bijou, il doit être équilibré, il doit être construit. En plus, il vit, le bijou, il y a quelque chose de très... Le bijou, il est soumis à la pesanteur, il est placé sur un corps en mouvement, souvent. Donc il y a des règles, d'équilibre. En fait, le poids doit être réparti, sinon ça tourne et c'est difficile à porter. Il doit être ni trop léger ni trop lourd parce qu'il a besoin. Il faut qu'on le perçoive, faut qu'on le vive avec, mais il faut pas qu'on le subisse. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, un bijou, en tout cas les marques pour lesquelles je travaille, sont des marques qui ont besoin d'être différentes de leur concurrente, donc leur concurrente amie. Donc le principe, c'est quand même de raconter quelque chose de la marque que les autres n'ont pas. C'est parler à leur cible de clientèle, qui n'est en général pas tout à fait la même. Surtout le bijou, il doit représenter le ton de la marque. Et le ton, c'est vraiment quelque chose de difficile à définir.
Et ça, donc j'imagine que tu travailles en collaboration étroite avec les services marketing donc de marque avec lesquels tu collabores, oui. Ou c'était le cas aussi, j'imagine, chez Boucheron.
Oui.
Mais dans ce genre de cas, comment tu fais pour être la fameuse éponge dont tu parlais ? Parce que j'imagine que quand tu arrives, encore chez Boucheron, tu travailles à temps plein, mais quand tu arrives sur un nouveau dossier maintenant pour une marque que tu connais moins bien, est-ce que tu as des guidelines ? Est-ce que tu as des trucs finalement pour réussir à éponger un maximum d'informations pour comprendre la substantifique moelle d'une marque ?
Ça nécessite d'être capable de couper. En fait, par exemple, dans une journée, je suis incapable d'enchaîner, de travailler sur deux clients en même temps. Je dis une journée, mais c'est même limite une semaine. Enfin, peut-être pas exactement à ce point, mais ça nécessite de me dédier à la marque, de me mettre dans la posture de la marque et de vider un peu mon cerveau pour faire ça. Et ensuite, c'est d'être à l'écoute, c'est de poser des questions, c'est de regarder ce qui se fait, ce qui a été fait, d'aller chercher les archives, essentiellement ça, oui.
Donc énormément de travail de recherche, énormément de travail de façon générale.
Ouais.
Là aussi, je trouve ça hyper intéressant. Une fois de plus, il y a souvent une vision un peu de l'artiste, du designer, du dessinateur, comme quelqu'un qui a un talent un peu inné. Toi, tu nous disais que tu avais commencé à dessiner quand tu étais tout petit. Donc, a priori, est-ce que c'est du talent ? Est-ce que c'est une envie ? On ne sait pas vraiment. Il y a aux États-Unis un écrivain assez connu qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui a écrit un livre qui s'appelle Outliers. Et en fait, sa théorie, c'est que pour devenir un vrai expert dans un domaine quel qu'il soit, il faut avoir passé plus de 10 000 heures sur un sujet quel qu'il soit. Est-ce que toi, tu as dessiné, tu penses, 10 000 heures ? Est-ce que tu es d'accord avec cette vision ? Ou est-ce que tu penses que des personnes, finalement, peuvent au contraire apporter plus parce qu'elles ne sont pas des expertes dans un domaine ?
Alors, je pense que j'ai largement passé les 10 000 heures.
Tu es un expert, selon Malcolm Gladwell.
Je suis ravi. Je pense que j'ai largement passé les 10 000 heures. Des fois, je me dis... Je me demande le nombre de pierres que j'ai dessinées. Enfin, c'est un peu bizarre peut-être pour vous, mais en fait, il faut se dire qu'en joaillerie, on dessine tout. Donc, toutes les pierres, c'est à échelle 1. Donc, je me demande le nombre de ronds que j'ai fait dans ma vie. Alors, des fois, ça... Voilà. Et pour répondre à ta question, je pense qu'il est bon d'être novice. Il est bon d'être frais sur des questions. J'essaye de... c'est pas facile... Parce que oui, mes clients, je les connais bien, et puis parce que la Place Vendôme est un petit monde, donc je pense qu'aujourd'hui, je maîtrise relativement bien mon sujet. C'est aussi pour ça que j'essaie de me laver l'esprit pour essayer de ne pas reproduire des mécanismes qui m'appartiendraient. Encore une fois, mon objectif, c'est de parler pour la marque, donc de me mettre en posture pour la marque et de pas reproduire mes gestes ou mes shortcuts. Et voilà, je sais pas si j'y arrive. J'espère que j'y arrive. J'espère que, en tout cas, j'ai tendance à croire que c'est ça qui ferait que je serais bon dans mon métier.
Donc, au contraire, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu cherches à ne pas reproduire des best practices et que tu essayes de te challenger en permanence pour ne pas rentrer dans une forme de routine.
Oui.
D'accord.
Exactement.
Bah, j'imagine que c'est ça la différence entre le monde professionnel traditionnel et la création. C'est que voilà, tu essayes en permanence de t'auto-challenger. Tu as des personnes qui t'aident à ça ou tu es obligé de le faire tout seul?
J'ai des personnes dans ma vie qui sont inspirantes, qui m'aident à réfléchir. Après, c'est un exercice qui est travailler, et particulièrement travailler en consultant pour des marques, c'est quand même un exercice assez solitaire. Donc c'est pas facile, mais j'ai Rémi qui, quand il rentre le soir, regarde mes dessins. Je lui montre très régulièrement parce que c'est difficile d'être son propre juge. Donc oui, c'est quand même nécessaire d'avoir de temps en temps un œil extérieur à ce qu'on fait.
Ça marche. Et alors, si on revient un petit peu sur ton expérience, non pas chez Boucheron, mais sur la suite de ton expérience, est-ce que tu peux me parler donc un petit peu de ce qui s'est passé et de pourquoi tu as quitté Boucheron, comment ça s'est fait?
Comme tu l'avais compris et comme vous l'aurez compris probablement, Boucheron, c'était... j'étais un bébé. C'était un bébé et en plus l'environnement était très paternaliste. J'apprenais, les gens prenaient soin de moi, même si j'avais ça a été vraiment une grande opportunité professionnelle pour moi et on m'a vraiment fait confiance, donc j'ai pu prendre en responsabilité. Et vraiment, j'étais très heureux. Mais cet environnement était quand même un environnement dans lequel j'aurais toujours été le petit jeune qui, et donc j'avais je pense besoin de m'affranchir de ce côté un peu paternaliste et de grandir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai quitté Boucheron. Et aussi c'est l'opportunité, puisque Lalique est venue nous chercher pour relancer la joaillerie. Lalique, donc qui était un cristallier aujourd'hui, qui est surtout connu pour ça, a été du même temps que Monsieur Boucheron un grand joaillier. Il fait vraiment partie de l'histoire de la joaillerie. Il s'adressait d'ailleurs aux mêmes clientes, les fameuses grandes allongées. Enfin, pas que d'ailleurs, il travaillait aussi beaucoup pour des actrices et notamment Sarah Bernhardt par exemple, ou d'autres actrices de théâtre. Bref, c'était un grand de la joaillerie et la volonté de Silvio Denz, quand il a racheté la marque, c'était de la relancer sur tous ses piliers fondateurs et donc particulièrement la joaillerie. Donc ça a été cette occasion-là que je ne pouvais pas décliner, puisque encore une fois, j'étais très jeune, donc avoir l'opportunité de relancer une marque...
T'avais quel âge à cette époque?
J'avais... quel âge c'était? Je devais avoir 26, 27 peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis Lalique, je le connaissais aussi parce que il avait travaillé pour Boucheron, il avait été consultant dessinateur en chambre, on appelait à l'époque. Donc il dessinait pour Boucheron, donc j'avais déjà vu ses dessins et j'avais vraiment été fasciné par son travail. Il avait une manière d'étudier la nature, les fleurs, les oiseaux, qui me fascinait. Il a dessiné d'ailleurs des serpents aussi pour Boucheron, qui était magnifique. Donc voilà, cet homme me plaisait beaucoup. J'aimais beaucoup son travail et l'idée de le réinventer, de le réexprimer dans une joaillerie plus moderne me plaisait beaucoup.
Est-ce que ton implication a été différente et ton rôle était différent quand tu étais chez Lalique que lors de ton expérience chez Boucheron?
Ah oui, complètement, parce que justement, d'ailleurs c'était peut-être un peu trop radical comme changement, mais je passais vraiment de celui qui apprenait chez Boucheron à celui qui savait chez Lalique. Et c'était bizarre, puisque donc il s'agissait vraiment de tout construire. La joaillerie n'existait pas, donc y compris les équipes, tout, choisir ce qui... Enfin, les archives de la marque sont énormes, donc il fallait choisir les directions qu'on allait prendre, les sujets qu'on allait traiter. Il fallait choisir comment la Ligue pouvait s'exprimer sur le marché du bijou aujourd'hui, puisqu'il ne s'agissait pas d'être passéiste, mais vraiment de l'inscrire dans le temps d'aujourd'hui.
Il n'y avait strictement aucune gamme joaillerie à l'époque chez Lalique.
En fait, il restait des bijoux en cristal qui dataient des années 90. Mais donc, oui, non. Mais
c'est génial. Donc, tu es arrivé et en gros, tu devais créer toute la gamme.
Blanche, ouais.
Donc, je ne dirais pas que c'est ta marque parce qu'il y a une histoire chez Lalique que tu as pris en compte. Mais comment tu démarres? Comment tu démarres le renouveau d'une marque comme ça?
Tu démarres en allant dans les archives. D'ailleurs, c'était drôle parce que cette marque qui fait du cristal n'avait pas vraiment regardé son patrimoine en termes de bijoux. Il avait un peu oublié. Enfin, il n'y avait pas de témoins de cette époque-là. Les archives n'étaient d'ailleurs même pas dans les bureaux. Ils étaient dans un coffre à la banque, dans une procédure assez complexe pour les consulter. Mais voilà, les premières semaines, les premiers mois, c'était ça. C'était essayer de comprendre en lisant un maximum l'œuvre de Lalique, essayer de comprendre comment il travaillait, quelles étaient ses passions, ses tics, ce qu'il cherchait à exprimer, au-delà, essayer d'interpréter sa manière de concevoir le bijou, qui était vraiment particulière, puisque, encore une fois, déjà, il y avait une manière de regarder la nature particulière, une manière de l'interpréter, de la sublimer, et aussi, il y avait une vision du bijou particulière, puisqu'il s'adressait à des femmes qui achetaient des bijoux pour elles-mêmes, ce qui, à l'époque, n'existait pas. À l'époque, c'était l'homme qui offrait un bijou à sa femme, et le bijou qu'il offrait à sa femme devait représenter son pouvoir, non seulement sur la femme, mais sur d'autres, puisque c'était censé représenter son argent. Son pouvoir financier. Là, c'était tout autre chose. C'était raconter la femme qui portait le bijou, raconter une histoire, en occultant totalement la valeur objective, c'est-à-dire le prix des pierres, la qualité des pierres, puisque ça a été le premier à mélanger le précieux et le non précieux, et notamment avec les pierres fines, notamment avec de l'émail, dans des savoir-faire en tout cas des métiers qu'on n'associait pas du tout aux bijoux à l'époque.
Et cette période éponge, une fois de plus, elle a duré combien de temps?
Alors, elle a duré longtemps, mais elle a dû être entrecoupée, puisqu'on avait quand même, c'est les joies de mon métier, on avait quand même des objectifs financiers à tenir et des collections à délivrer. Donc, la première étape a duré peut-être, 4 mois. Mais on devait lancer des collections très vite. Donc, il a fallu quand même assez rapidement
trancher et mettre en dessin. Et est-ce que tu as eu, à cette période, j'imagine que ça devait être tellement dense, il devait y avoir tellement de choses possibles que tu allais pouvoir exploiter, qu'une des difficultés, c'est de faire des choix et de se dire, OK, sur quel axe je pars? Mm-hmm. Est-ce que ça a été difficile? Comment tu gères ce genre de choix difficiles à prendre?
J'ai pas le souvenir qu'il ait été difficile. Déjà, on était, à ce moment-là, on était deux, puisque je suis parti avec quelqu'un avec qui je travaillais chez Boucheron. Et on discutait énormément de ce qu'on avait envie de raconter. Et en fait, on a fait à l'émotion, je crois. C'est-à-dire les dessins qui m'ont le plus interpellé tout de suite sont les choses à partir desquelles j'ai travaillé en premier. Ce qui me paraissait le plus différent, le plus nouveau, et en même temps le plus dans l'air du temps. C'était. Je me souviens très bien d'ailleurs de ce bijou. C'était un diadème avec des ailes. Il était très fort, très beau, et on avait vraiment l'impression que les ailes étaient en train de s'offrir au vent et de s'envoler. C'était vraiment c'est en fait les dessins de Lalique qui étaient très très délicat, très émouvant. Donc comment ça s'est fait à l'affect, en fait, à l'intuition. Encore une fois, je pense que même d'ailleurs à ce moment-là, j'avais aucune conscience de ce qu'on faisait. En fait, je faisais parce que j'avais envie, parce que ça me plaisait et je suivais mon instinct, en fait.
Et donc, la première collection que tu as designée pour la Ligue, c'était la fameuse collection L'Oiseau de Feu.
Exactement, le feu sacré.
Le feu sacré,
ouais.
Donc inspiré par cette couronne, a priori.
Exactement, par cette couronne. Et puis, alors, à chaque dessin, j'essayais de... La Ligue, c'était pas quelqu'un qui créait gratuitement. Dans le sens, lui non plus, je crois pas. Je crois qu'il n'était pas touché par la grâce divine. Il avait toujours un propos, une inspiration. Et souvent, c'était la Grèce antique, ce qui était courant d'ailleurs à l'époque comme inspiration. Et donc, il avait souvent des références mythologiques. Et donc, le feu sacré, parce que le phénix, parce que les vestales aussi, qui sont les déesses qui étaient chargées de maintenir le feu sacré en vie. Donc ça, c'était l'histoire de la première collection.
Est-ce que tu as eu peur des premières critiques ? Là, c'était finalement la première fois que tu faisais une collection où tu étais le chef designer.
Oui, où j'étais exposé.
Est-ce que tu avais peur du regard public ? Ou tu, au contraire, que tu l'anticipais ?
Alors, je pense que j'avais hâte, mais j'étais totalement inconscient de ce que je faisais. Donc,
c'est quelque chose qui revient de façon récurrente.
Oui, je sais. Non, mais parce que je pense que je suis capable d'être guidé par le plaisir, par l'envie de faire, et je réfléchis pas toujours aux conséquences. Et tant mieux. Enfin, tant mieux parce que ça évite. Je pense que je crois pas que la peur soit un moteur. Donc je racontais mes histoires. J'étais. En fait, j'ai pas trop. Bizarrement, je suis pas quelqu'un qui est très, très sûr de moi dans la vie. Enfin, je crois pas que ça me caractérise particulièrement, mais j'ai des certitudes parfois. En tout cas, quand je fais les choses, je les fais avec conviction, avec conviction. Et du coup, ça m'évite de douter trop. J'essaye de faire au mieux, j'essaye de faire le plus honnêtement possible. Et voilà, donc se passe ce qui doit se passer. Et voilà, et en l'occurrence, l'accueil de la collection était plutôt très bon. Je me souviens toujours de ce moment. Donc, c'était à l'hôtel d'Evreux, qui est donc un hôtel sur la place Vendôme. Et donc, pour la petite histoire, évidemment, les produits n'étaient pas prêts. On a reçu les dernières pièces à 4 heures du matin. Enfin, donc, on était à 4 heures du matin sur les lieux d'exposition en train d'accrocher les bijoux. Enfin, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. Et le moment où les portes s'ouvrent, c'est là où j'ai commencé à avoir peur, exactement, en fait.
Il y a un moment précis.
Et surtout, une des premières personnes qui arrive, c'est Suzy Menkes.
Bien, donc tu étais à l'aise.
Exact, totalement à l'aise, mais sauf que je ne la connaissais pas, en fait.
Pour les personnes qui nous écoutent, je le mettrai dans les notes, mais est-ce que tu peux nous dire en deux mots qui est Suzy Menkes ?
Suzy Menkes, c'est la papesse de la mode. C'est une journaliste qui est extrêmement, extrêmement connue, qui a travaillé pour le New York Times et qui maintenant est consultante pour Vogue Monde. C'est une silhouette hyper reconnaissable, puisqu'elle a une coiffure assez particulière.
Voilà, rousse.
Et puis voilà, une coiffure particulière, je laisse à nos auditeurs la possibilité d'aller chercher par eux-mêmes. C'est surtout, en fait, j'ai surtout découvert quelqu'un d'extrêmement bienveillant et de très gentil, et qui, je pense, a tout de suite vu mon manque d'habileté en la matière, de l'interview. Et donc, elle était extrêmement, extrêmement bienveillante, extrêmement gentille. C'était drôle parce que donc je ne savais pas qui elle était, évidemment. J'ai compris qu'elle était importante parce que tout le monde s'est arrêté de parler autour et tout le monde en regardait. Voilà, j'ai supposé qu'il fallait que je fasse bien ce que j'ai tâché de faire. Et voilà, et le lendemain, on avait un super article dans le New York Times. C'était chouette. Mais encore une fois, en toute simplicité, en toute inconscience de ce qui se passait.
C'est clair. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais juste avant. Tu me parlais du plaisir comme étant l'un de tes moteurs. J'imagine que c'était le cas aussi quand tu dessinais des voitures étant petit. C'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente dans ce podcast. Enfin, en tout cas, la personne que j'ai interviewée avant toi m'a dit exactement la même chose, qu'en fait, elle ne réfléchissait pas vraiment à ce qu'elle faisait, qu'elle le faisait avant tout par plaisir. Est-ce que pour toi, c'est un conseil que tu aurais à donner, une ligne de conduite à suivre, à savoir, faites avant tout les choses par plaisir, parce que c'est comme ça que vous allez être bon, que vous allez exceller en le faisant?
En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment deux motos. Effectivement, le plaisir, c'est le premier, et la sincérité. C'est vraiment l'idée d'aller au bout des choses sans essayer de d'anticiper ce qui va en ressortir. Ouais, c'est ça, le plaisir, la sincérité. Je trouve que c'est, en tout cas moi, c'est là où je suis le meilleur, une fois que j'ai fait ça.
T'as eu la sensation, justement, parfois, de faire des choses un peu presque par devoir ou j'imagine par besoin alimentaire et du coup d'être moins bon parce que t'étais moins sincère et moins à fond? Ou t'arrives à dire non à ce genre de projet?
Alors, j'arrive pas. Alors, en fait, je crois pas m'être trouvé dans cette situation-là. Ou en tout cas, encore une fois, j'ai pas de jugement sur les choses qui se présentent à moi. Là, aujourd'hui, en tant que consultant, mes clients, j'ai toute forme de clients. Je suis en train de travailler avec un frère et une sœur. On est en train de monter une marque. Je travaille avec, avec des grands joailliers. Pour moi, j'arrive à raconter une histoire, à me raconter une histoire dans toutes sortes de choses et toutes sortes de produits. Même quand j'ai, mon travail, ça, c'est aussi de faire des choses très commerciales, de faire des objets qui se vendent et qui sont fabriqués en série. J'ai pas d'orgueil là-dessus et j'arrive à trouver, à me raconter une histoire et à raconter une histoire à peu près sur tout. Je ne préjuge pas de ce genre de choses. C'est vraiment en tout cas, c'est ce qui. Je crois que je suis pas snob et que je n'aborde pas mes problématiques avec avec cette distance ou ce mépris là. En tout cas.
Je te confirme que t'es pas snob. Non, mais ça m'intéressait parce que je pense que beaucoup de gens font des choses par devoir ou tu sais, il y a toute une littérature du business qui dit que. Faut avoir un espèce de besoin, une envie irrépressible de faire quelque chose pour réussir et de s'y atteler. J'ai l'impression que dans ta carrière, il y a eu aussi beaucoup de spontanéité, même s'il y a ce fil directeur quand même du dessin et du plaisir du dessin,
oui.
De l'histoire aussi, j'ai l'impression. Mais au final, je sens qu'avant tout, il y a le plaisir et il y a l'envie de se faire plaisir en se racontant des histoires, en racontant des histoires à d'autres personnes. Donc, je trouve ça hyper intéressant et je t'en remercie. J'aimerais enchaîner en te demandant des choses un petit peu plus concrètes, parce qu'on s'adresse aussi à des personnes, je pense, qui voudront peut-être être designer, créateur d'entreprise et qui cherchent aussi à s'améliorer, à avoir des best practices et des outils. Est-ce que toi, tu as des outils justement que tu utilises qui t'aident dans ton travail, alors d'abord de dessinateur, peut-être de designer au sens plus large, c'est-à-dire aussi de personne qui va travailler à une plateforme de marque, mais déjà dans un premier temps, sur la partie dessin, est-ce que tu as des outils, à part un crayon et un papier, que tu utilises et que tu recommanderais?
Alors j'ai effectivement des outils, un crayon, un papier, c'est sûr.
Simple, ça coûte pas cher.
Non, ça coûte pas cher et puis c'est très pratique. Est-ce que j'ai d'autres outils que ça pour créer les marques, pour les marques?
Tu restes très traditionnel, papier, crayon, et tu passes pas aujourd'hui beaucoup par des supports informatiques.
Ah si, la première étape de toute façon c'est toujours une étape à la main, c'est toujours un croquis à la main parce que je trouve que c'est la meilleure manière justement de construire ses formes. Et puis ça autorise l'erreur l'erreur est moins laide en croquis qu'elle est en général quand on la passe sur Illustrator par exemple ou dans des logiciels de 3D. Donc ça, la première étape c'est ce croquis. Ensuite probablement une mise en couleur, on commence à réfléchir aux matières et ensuite on passe en plan puisque encore comme je disais auparavant la joaillerie c'est du dessin à l'échelle 1. Toutes les pierres doivent être dessinées à l'échelle. Donc le plan, c'est une étape hyper importante pour communiquer ses idées aux différents ateliers. Et puis le dessin, c'est vraiment le document référent tout le long du process de fabrication. Donc c'est quand même l'exécution de ce dessin et la véracité du dessin est vraiment cruciale. Ce sont mes outils de dessin. Ensuite, mes outils de conception, je ne saurais pas les expliquer. Je pense que chacun a sa manière d'aborder les marques et d'aborder son processus créatif. Je ne saurais pas exactement donner des best practices.
Donc, tu n'as pas d'outils créatifs particuliers, à part te plonger dans les archives, comme tu dis souvent, être une éponge, tu n'as pas d'outils.
En fait, je pense que c'est une posture qui est hyper importante. C'est vraiment la posture de l'empathie avec la marque. L'empathie, d'ailleurs, pas que avec la marque, avec aussi les représentants de la marque qui s'adressent à moi, donc qui sont les détenteurs de la vision. C'est essayer de comprendre... où ils veulent aller, puisqu'aujourd'hui, ça n'est plus... mon rôle, il est, encore une fois, chez la Ligue, c'était différent. Mon rôle était d'avoir la vision. Là, aujourd'hui, mon travail, c'est de répondre à une question qu'on me pose et qui m'est posée par les gens qui ont cette vision. Alors, elle n'est pas forcément toujours formulée. Donc, il s'agit de prendre cette posture où on va un peu accoucher de la vision des gens, essayer de leur faire mettre en mots, en tout cas dans des mots qu'on comprend. Et cette posture d'empathie, il faut poser beaucoup de questions et essayer d'être à l'écoute.
Donc, en tant que designer, non pas de ta propre marque, mais designer pour d'autres, tu dirais que l'une des grandes qualités, c'est quoi ? L'humilité, justement, l'empathie ?
Je pense, en tout cas, moi, c'est la manière dont je le fais. Beaucoup d'autres ne le font pas comme ça. Je pense qu'il y a des marques qui sont rassurées par le fait d'avoir des gens qui ont des certitudes et qui ont un caractère fort, un style fort. Il y a des marques qui recherchent ça. Voilà, moi, c'est ce que je propose, c'est une approche un peu différente. Et je pense qu'en tout cas, c'est pour ça qu'on vient me chercher aujourd'hui, oui.
Et pour la Ligue, du coup, tu n'étais pas tout à fait dans ce rôle-là, parce qu'au contraire, comme tu l'as dit, c'est toi qui devais imposer la vision. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ce changement de paradigme, ou pas tellement ?
Non, parce que, même quand je réponds à une question, bien sûr, il faut avoir une vision, il faut avoir une interprétation de la question. Chez la Ligue, la question était juste plus large et j'étais un peu sans filet, donc c'était beaucoup plus engageant. Mais non, encore une fois, ce qui me guide, c'est l'envie, c'est une sorte de soif de dès qu'on me pose une question. Je suis vraiment très problème solver, c'est vraiment quelque truc qui est très fort.
Qui est aussi ton petit côté ingénieur, du coup, qui ressort.
Exactement. Mais c'est, par exemple, c'est ma je me comporte pareil avec mes amis, par exemple. Je suis problème solver. C'est chiant parce que des fois...
Je confirme.
Je pense que des fois, on a juste envie que j'écoute, que je compatisse. Et c'est vrai que je suis pas très compatissant. Je suis plutôt dans l'action et je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et voilà, j'ai besoin de créer, trouver des solutions, c'est créer.
Et chez Lalique, encore une fois, si je reviens là-dessus, donc premier succès phénoménal avec cette première collection. Ensuite, le reste, c'était à la fois continuer à être créatif, mais c'était aussi une dimension plus business que ce que tu avais fait auparavant chez Boucheron. Est-ce que tu peux m'en parler ? Est-ce que tu peux me dire si c'est quelque chose qui t'a plu ? Comment ça s'est passé au final de voir mêler à la fois ta partie vraiment créative et d'intégrer de plus en plus le reste, la partie marque, la vision, j'imagine un peu plus de marketing, un peu plus de commercial aussi dans ce que tu faisais ?
Chez la Ligue, encore une fois, l'équipe était, on a créé l'équipe, elle était très petite. Donc le corollaire de ça, c'est qu'on était tous un peu multitask. Et quand on recrée une marque comme ça, c'est vrai que les gens s'attendent à ce qu'elle soit supportée et incarnée. Donc c'était essentiellement moi qui incarnais la marque. Auprès des journalistes, comme vous l'aurez compris, et aussi j'ai toute la première année, j'ai fait quasiment le tour du monde pour présenter aux distributeurs, aux partenaires potentiels pour la joaillerie Lalique, et voilà, ça a été.
C'était presque un rôle commercial.
Oui, il y a des moments où je me suis retrouvé dans des centres commerciaux, d'ailleurs, où j'avais l'impression d'être un vendeur d'aspirateurs. Sauf que j'avais des bijoux avant.
T'avais des bijoux.
D'ailleurs, j'ai jamais pu admettre vraiment... Enfin, je ne pouvais pas le voir comme ça. Mon objectif, c'était plus de raconter mes histoires aux gens. Je ne suis pas bon pour vendre, parce que je n'aime pas la dimension mercantile, pour le coup. C'est-à-dire, l'échange d'argent ne me plaît pas. Par contre, ce qui me plaît, c'est de raconter la valeur d'une pièce, la valeur d'un travail. Donc non, c'était le prolongement de ma mission pour la Ligue je l'ai fait tant que c'était nécessaire pour la marque et tant que ça la servait. Après, c'est pas une posture que je recherche particulièrement aujourd'hui dans ma vie, celle d'être le porte-parole de quoi que ce soit d'autre que de moi-même. Mais ça a été intéressant parce que du coup, j'étais en contact avec les clients eux-mêmes, donc ça donne... notre vision du métier, des attentes, c'était intéressant.
Qu'est-ce que tu dirais que tu as le plus appris chez Lalique ?
Je pense en effet que j'ai appris toute la dimension business, puisqu'il fallait positionner la marque, la raconter. j'ai appris à parler de mon travail, à m'exprimer, à formuler mes idées. Voilà, je pense que j'ai essentiellement appris ça.
Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut créer sa marque aussi, un peu de la même manière que bah, vous l'avez fait pour la LIC, qu'est-ce que tu donnerais comme premier conseil ?
Je pense que la première chose, c'est de ne... En fait, il faut vraiment faire la différence entre le fait de créer une marque et le fait de vouloir se raconter soi-même. Il y a souvent il y a confusion entre les deux. C'est-à-dire, il y a les marques de créateurs, où là, sont les créateurs qui parlent selon leurs envies. À mon avis, ça... ça...
C'est pas tellement dans la transmission, du coup, comme toi, j'ai l'impression qu'il te touche.
Non, pas exactement. Et puis surtout, souvent, ça s'inscrit dans un temps donné et c'est éphémère. C'est très difficile. Il y a peu de marques de créateurs qui deviennent des marques. Bien sûr, finalement, quand on y réfléchit, toutes les grandes marques ont été des marques de créateurs à un moment donné. Et probablement que ce qui se joue, c'est le temps et c'est la capacité de la marque à traverser les époques. Mais on peut créer une marque en dehors de soi-même, c'est en dehors de vouloir s'exprimer soi-même. C'est avant tout, à mon avis, regarder ce qui se passe sur le marché qu'on cherche à intégrer et de se poser la question de ce qu'on peut y apporter, de ce qui manque et de comment on pourrait s'y comporter en tant que marque. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Donc, c'est global, hein, c'est en termes de style, mais c'est aussi en termes de rituel, par exemple. C'est ce que vous avez fait avec Gemio. C'est un nouveau rituel, une nouvelle approche du marché. Ça peut être un trou dans un segment prix. C'est assez vague, mais il y a plusieurs manières de faire. Mais en tout cas, vraiment d'interroger la place qu'on peut trouver dans le marché qu'on préempte.
Et donc peut-être écouter un peu plus ses clients. Tu parlais tout à l'heure chez la Ligue du plaisir que tu as eu à parler à des clients, ce qui est très peu fréquent alors dans la joaillerie, mais très peu fréquent chez les marques de luxe de façon générale. Mon but c'est pas de dire que les gens font les choses bien ou pas bien, mais c'est vrai que souvent il y a une posture chez les maisons, avec des designers notamment, qui sont que c'est eux qui doivent imposer leur vision et que finalement le marché le suit derrière, d'une certaine manière, qui vont éduquer le marché, ce qui est une très belle vision aussi. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est peut-être pas tout à fait ça ce qui, toi, t'intéresse. Et qu'en tout cas, dans la création de marque, tu estimes qu'il y a aussi toute une partie de comprendre le marché, de comprendre comment se différencier, qui joue.
Oui, tout à fait. Alors, en effet, déjà, c'est ce qui m'intéresse, moi. Après, probablement qu'il y a plusieurs, il y a de nombreuses manières de faire. Je pense aussi que c'est une nouvelle ère dans le luxe, dans la marque, pas que d'ailleurs le luxe. Où aujourd'hui, faire des beaux objets, ça ne suffit pas. On est à l'ère du numérique, on est immédiatement comparable. Donc il s'agit de faire quelque chose de différent. Il s'agit aussi de faire quelque chose... Encore une fois, aujourd'hui, la dimension prix, par exemple, est hyper importante parce que en un clic, on est comparable. Donc on ne peut plus avoir une posture... absolue, hégémonique, disant je suis une marque de luxe, je suis une marque désirable, je vends cher et je décide de mes marges. D'ailleurs, je décide de faire telle ou telle marge dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Je pense que les marques, elles sont extrêmement à l'écoute de leurs clients parce que je pense qu'elles n'ont plus exactement le droit à l'erreur. Je pense que tout doit être anticipé et qu'elles elles peuvent plus prendre de risques. Donc je pense qu'effectivement, il faut être très à l'écoute.
Un des trucs qui revient de façon récurrente, en tout cas, un de tes conseils, c'est donc d'être assez humble, et je le retiens, et d'être éponge, comme tu disais. Donc, on va essayer de comprendre comment faire pour être éponge. Tu sais, ce podcast, c'est notamment d'essayer de comprendre les facteurs clés de succès des personnes qui excellent dans un domaine quel qu'il soit. Donc, toi, en l'occurrence, le dessin et le dessin de joaillerie en particulier. Et je me pose souvent une question qui est, est-ce que ces personnes qui ont une forme de succès ont des habitudes récurrentes, ont des espèces de trucs, ont des routines, peut-être même par exemple le matin, je sais pas, est-ce que tu fais toujours la même chose avant de commencer à travailler pour te mettre dans une espèce d'état d'esprit qui va faire que tu vas être plus créatif? Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu as donc des routines?
Alors moi c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui me caractérise dans la vie, c'est que je n'ai aucune habitude. Mais aucune. C'est-à-dire que c'en est maladif. Ma seule habitude, c'était fumer. Et j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Je n'ai plus d'habitude. Et c'est vrai que quand on est indépendant, c'est un vrai problème. Parce que... Et je pense que j'ai pas encore d'ailleurs trouvé exactement mon rythme. Je ne reproduis jamais les mêmes gestes. Je ne refais jamais de la même manière.
Donc le matin, par exemple, aucune routine particulière. Tu te lèves pas forcément à la même heure. Tu prends pas ton café, ton.
Non. Alors si, oui. Alors la seule habitude, c'est qu'il y aura un café à un moment dans cette histoire, au moins un. En tout cas, il y aura la caresse à Igor, mon chien, à un moment dans cette histoire que tu connais et que tu aimes beaucoup.
J'aime
d'ailleurs.
Beaucoup.
Non, je n'ai pas d'habitude, si bien d'ailleurs que, enfin, des fois c'est un peu compliqué puisque je peux très bien. Il y a plein de moments où travailler est exactement la première chose que je fais en sortant de mon sommeil. Je fais même, désolé pour les oreilles chastes, mais il y a des journées où je suis tellement dans ce que je fais que je me retrouve à 19h30 juste avant que Rémi rentre et où je me dis tiens peut-être qu'il faudrait que je prenne une douche par exemple.
Voilà, tu es encore en pyjama en train de dessiner.
Exactement, c'est un peu l'enfer et j'espère que vous n'êtes pas en train de me représenter en pyjama en train de travailler, mais oui c'est ça. Mais je pense que c'est aussi le point, être indépendant ça implique ça, ça implique qu'on est son propre garde-fou et ça nécessite aussi de saisir la balle au bon, l'inspiration au bon, l'énergie au bon. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en étant à mon compte, dont j'avais pas conscience avant. C'est quand on est dans une entreprise, on bénéficie de l'énergie produite par les autres et du rythme qui nous est donné dans l'entreprise. Voilà, on a une heure à laquelle on doit arriver, une heure à laquelle on doit déjeuner, des gens qui jalonnent notre journée. Donc, en fait, même s'il y a un jour où on n'est pas très en forme, qu'on est un peu grognon...
Oui, d'une certaine manière, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, la journée se passe, il se passe des choses. Quand on rentre chez soi le soir, on se dit juste qu'on n'a pas eu une journée productive. Quand on est en indépendant, la journée où on n'arrive pas à travailler, si on ne sait pas se manipuler soi-même, rien ne se passe de la journée.
Et ça t'est déjà arrivé ?
Au tout début, oui, mais je pense qu'aussi c'était un peu l'angoisse de la page blanche version, c'est la journée blanche. Et oui, cette prise de conscience, en fait, il a fallu les premiers jours que je teste si je ne fais rien, si je ne produis rien, si je ne produis pas d'énergie, rien ne se passera dans ma journée. Et d'ailleurs, personne ne le saura. Il suffira juste de mentir à ce propos-là. Non, et du coup, mais bon, c'est vraiment pas, encore une fois, mon caractère de faire ça comme
non,
ça.
Non, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est absolument pas ton caractère et que pour autant ça t'est arrivé,
ouais.
Ou ça a pu t'arriver, et que pour autant tu n'as pas voulu créer des règles, parce que typiquement ces routines dont je parlais, c'est aussi
oui,
d'une certaine
ça.
Manière pour s'aider, s'auto-aider quand on n'a pas confiance en soi et qu'on se dit, ben voilà, j'ai une télé à côté de moi, j'ai des amis, il fait beau pour une fois, bon, en ce moment il fait pas très beau à Paris, non. Mais... on pourrait se dire, je me crée des règles, je sais que j'ai une routine, que tous les matins, je me lève, je sais pas, à 8h, même pas forcément si tôt que ça, je vais sortir mon chien, je prends mon café, je regarde mes mails, et ensuite, je sais que quoi qu'il arrive, à 9h, je commence à travailler, que je travaille de 9h à midi, je n'en sais rien, et ensuite, je fais ma pause déjeuner, etc. Je sais que beaucoup de personnes passent par ce genre de rythme et de routine pour, et j'appelle ça routine, c'est un côté un peu négatif, la routine, mais...
Oui, mais de rituel.
De cadre, de ouais. Rituel. Pour pour se guider soi-même et pour se mettre des règles qui sont finalement parfois plus simples à suivre que de ne pas avoir de règles. Mais donc toi, tu n'en ressens pas le besoin.
Alors c'est pas que j'en ressens que pas le besoin, c'est quelque chose que je ne suis pas que je n'ai pas encore su faire. Alors est-ce que pour être honnête avec toi, ça faisait partie de mes objectifs d'essayer de me trouver mes objectifs de l'année, c'est essayer de me trouver une routine. J'ai très mal commencé, donc donc je n'en ai toujours pas à l'heure où je vous parle. Et d'un côté, j'aime bien ce non-confort là. J'aime bien être sur cette ligne là parce que je trouve aussi qu'elle est, comment dire,
Tu veux dire la ligne de garder ta liberté, de
la liberté
en faire un peu
d'être toujours un peu en danger, ouais, d'être sur le fil de soit trop travailler, soit j'aime bien cette c'est il y a presque une forme de précarité, mais non mais pour de vrai, il y a plein de jours où je déjeune pas, par exemple, où, et comme je prends pas de petit déj le matin, il y a des moments où je me retrouve à mourir de
donc
faim.
Donc en pyjama, 19h, sans avoir
mangé.
C'est
ça, où la seule chose qui est dans mon ventre, c'est du café. Enfin bon, j'aime bien cette idée-là, même si je pense que voilà, le fait d'être indépendant a quand même vocation à s'inscrire dans le temps. Donc je pense qu'il va falloir que pour ma propre j'ai le sport. C'est vrai que le sport c'est mon habitude et c'est ce qui me maintient. Enfin c'est ce qui maintient mon hygiène de vie quand même.
Donc le sport, peut-être sortir Igor.
J'essaie quand même de me manipuler moi-même. Donc de faire, je fais beaucoup de choses. C'est l'avantage, c'est que j'ai une grande liberté dans la manière dont je peux gérer mon temps et je ne passe pas du tout l'entièreté de mes journées en pyjama devant mon ordinateur, loin de là.
On s'en rappellera.
Non, déjà, j'ai quand même pas mal de travail et pas mal de clients, donc je vois mes clients, déjà ça m'occupe. Ensuite je déjeune avec des clients potentiels, donc c'est bien, je sors mon chien et je vais au sport. Enfin bon, ça fait quand même au final une vie assez remplie.
Super. Et si on repart un petit peu en arrière et qu'on reparle du coup de ce moment où tu as quitté la Ligue et où tu as décidé de te mettre à ton compte, énorme décision. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se la posent. Clairement, c'est pas facile de quitter, d'une certaine manière, la sécurité du monde professionnel en entreprise pour créer la sienne. Est-ce que tu peux me dire ce qui a été l'élément déclencheur et qu'est-ce qui a fait que tu as franchi le pas ?
Je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais petit, j'étais souvent malade et j'avais notamment ce qu'on appelait à l'époque des bronchites asthmatiformes.
Et oula, en fait, ça n'a pas l'air très sympa.
Ouais, c'est un peu la bronchiolite. Et donc j'avais ça à répétition et ça me provoquait des quintes de toux qui m'empêchaient de respirer. Et donc ce sentiment d'étouffer, c'est vraiment quelque chose que je ressens très très fort quand je suis dans une situation qui ne me convient pas. La liberté, c'est vraiment quelque chose de la liberté, la vie, c'est vraiment quelque chose de très très important dans ma vie. La Ligue, ça a été très intense, ça a été une très belle histoire. Et à un moment donné, ça a été trop. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'air. J'étouffais vraiment, littéralement. Et en fait, à vrai dire, ce qui a déclenché donc du coup mon départ de la Ligue, c'était juste ce besoin de liberté. J'avais vraiment pas de plan et c'est voilà ce que j'aime bien chez moi, c'est que j'arrive encore une fois à faire des choses
un peu folles sans vraiment trop y
réfléchir. Il y a une forme de en fait je pense qu'il faut aussi avoir confiance à défaut d'avoir confiance en soi, il faut avoir confiance dans la vie et j'avais quelque part au fond de moi probablement la certitude que quelque chose se passerait de bien. Donc voilà, le premier moteur c'était le besoin de liberté, le besoin de changer de d'univers. J'avais beaucoup donné créativement, ça m'avait beaucoup épuisé parce qu'on faisait énormément de produits. Aussi j'avais besoin de changer d'environnement de travail, puisque c'est vrai que les gens avec qui je jouais à la balle, je travaillais avec eux depuis longtemps, Anne notamment, avec qui je travaillais chez Boucheron. Donc je pense que c'était bien aussi pour nous deux de changer d'air, de changer d'univers et de changer d'interlocuteur. Et j'avais envie de aussi, Boucheron et Lalique sont deux marques qui ont un univers très ornemental, très, très épais, un peu cotonneux. C'est vraiment une... Des influences artistiques qui sont pas exactement dans mon univers à moi. Je suis plus simple et plus direct que ça. Et je pense que j'avais aussi envie de me donner la possibilité de travailler pour des marques qui me ressemblaient plus.
Et quand tu as donné ta démission, que tu as commencé à travailler à ton propre compte, est-ce que tu peux me raconter comment se sont passés les premiers mois, enfin le premier jour du reste de ta vie où tu n'es plus employé? Comment ça se passe?
T'as peur en fait. Le premier jour, t'as peur parce que t'es seul en fait. Donc t'es seul à réfléchir. Tu veux pas décevoir les gens qui te font confiance parce que tu viens de commencer. Donc t'as envie d'être à la hauteur. Et voilà, donc t'es obligé de te manipuler pour déjouer tes peurs et arriver à sortir quelque chose, puisque tu n'es par définition être créatif. créatif, c'est l'inverse d'être angoissé quand même. Enfin, tu ne peux pas être serré dans ton cœur et dans ta tête et avoir des idées pertinentes, je crois. Donc voilà, le premier jour, c'est t'as une feuille blanche, t'as une question que quelqu'un a la gentillesse de te poser et puis t'as envie d'y répondre au mieux. Donc ça se passe comme ça. Ça se passe avant ça, il y a quand même toute la partie administrative qui est quand même dans notre cher pays.
On va en parler.
Un poème qui préside au moment où tu te mets devant ta feuille, puisque. Voilà, mais donc t'as peur au tout début.
Donc t'as peur. Et finalement, la peur, elle s'en va comment? Parce que tu commences à produire et que du coup, tu commences à ressentir du plaisir aussi, j'imagine.
Oui, c'est ça. Et puis, oui, t'as tes premiers succès, t'as tes premiers échecs, t'as des clients contents, des clients pas contents. Enfin, c'est la vie, quoi. Donc, c'est. Oui, tu prends un petit peu confiance en faisant.
Est-ce que tu as eu peur à un moment de pas trouver de clients, pas réussir à dessiner, pas réussir à faire ce que tu faisais déjà très bien avant? J'imagine que tu savais que tu y arriverais à peu près globalement, même
Alors,
si c'était pas tout à fait la même chose.
J'ai soigneusement évité de me poser la question.
C'est très bien. Et comment les premiers clients te sont venus? Par recommandation?
En fait, à la seconde où j'ai quitté la LIC, la seconde, j'exagère un peu, mais deux semaines après, j'avais quelqu'un avec qui j'avais travaillé, Maximilien Busser, d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui est donc un créateur horloger avec qui j'avais travaillé, qui m'a envoyé un mail très rapidement, tout de suite après. Donc, ça m'a, j'ai soigneusement évité de me poser la question pendant deux semaines. Et ensuite, j'avais une ébauche de réponse puisque on allait travailler ensemble.
Et est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes, le fait d'avoir à démarcher des clients, ou au final, tu dis que tu n'arriveras jamais finalement dans cette situation parce que tu as beaucoup de recommandations de tes pairs?
Ah non, je suis loin d'avoir cette certitude-là.
T'embaucherais quelqu'un éventuellement pour le faire à ta place si tu penses que t'en avais besoin un jour?
Je sais pas si mon métier nécessite d'avoir un agent. Peut-être si c'est nécessaire.
Je sais que beaucoup de personnes, justement des créatifs, souvent appréhendent le fait d'avoir à être commercial en même temps. C'est vraiment un cœur de métier qui est complètement différent. On va en parler aussi sur toute la partie administrative. Je trouve que ce qui est difficile quand on est créateur d'entreprise et surtout quand on est à son compte, c'est d'être un peu sur toutes les fonctions en même temps. Et donc toi, clairement, la fonction créative, tu la maîtrises parfaitement. La partie administrative, déjà, on va voir que c'est pas toujours parfait. Et la partie commerciale, bon, il se trouve que t'en as pas tellement eu besoin.
Non, mais je pense que c'est aussi relatif au milieu dans lequel je travaille. La Place Vendôme, c'est un petit milieu et puis c'est de l'entre-soi. Donc les gens bougent et voilà, je pense qu'à partir du moment où on fait son travail avec honnêteté et gentillesse, je rigole, mais je pense que oui, les gens ont envie de travailler avec nous. Donc du coup, je me suis pas posé la question d'aller chercher de nouveaux clients. Jusque là, j'en ai pas eu besoin. J'ai eu cette chance là. Le jour où je me suis mis des objectifs, par exemple, j'ai envie de travailler un peu plus dans l'horlogerie parce que j'avais beaucoup aimé ça chez Boucheron. Donc je me dis, voilà, dès que j'ai un peu de temps, je vais essayer de contacter des marques horlogères pour leur proposer, parce qu'en plus le savoir-faire de joaillier appliqué à l'horlogerie est plutôt rare. Donc je pense que c'est quelque chose où, voilà, c'est un secteur où je peux apporter quelque chose. Voilà, par exemple. Ça me pose pas un problème parce qu'encore une fois, je raisonne pas dans l'idée de me vendre, mais plutôt dans l'idée de projet que j'ai envie de faire et de me donner les moyens de faire les projets dont j'ai envie.
Bien sûr. Et sur cet encadrement, du coup, autour de toi, enfin, notamment la partie juridique, administrative, je sais que c'est difficile pour tous les créateurs d'entreprise. Comment est-ce que tu arrives à couper court parfois à ce travail-là et à te concentrer sur ton cœur de métier, la création de valeur via la création? J'imagine que tu dois réfléchir un petit peu à mettre des limites dans le temps que tu passes à gérer ton administratif. Comment est-ce que tu fais ça?
En fait, on a je pense qu'on a tous une bande passante. Et donc, il faut effectivement dédier une partie de cette bande passante à des choses qui sont peut-être moins valorisantes et moins intéressantes. Et en fait, je le traite au même titre que je traite mes différents clients. C'est-à-dire que ça nécessite un temps dédié à part. Je peux pas, par exemple, si le matin, je dois y consacrer une journée entière en général, parce que ça me met dans une disposition...
Par semaine, tu veux dire ?
En fait, ce que je veux dire, c'est que quand je m'y mets, il faut que je m'y mette sur toute la journée.
Tu fais que ça pendant la journée.
Je fais que ça parce que c'est une manière, comment dire, c'est une disposition d'esprit que j'arrive pas à quitter. Ou alors, si je n'ai pas de quoi m'occuper une journée, il faut que je fasse autre chose l'après-midi. Je vais faire une expo ou voilà. Mais ça nécessite une certaine disposition d'esprit. Après, je sais pas si ça a trait à mon travail ou si ça a trait à ce que je suis. Je suis pas très fort dans en fait surtout ça me je trouve ça compliqué, ça m'angoisse, donc
t'es pas la seule personne dans ce cas-là, et je pense que beaucoup d'indépendants en fait qui cherchent avant tout la liberté se sentent un petit peu enfermés, étouffés comme tu disais par ce genre de choses. Après, faut aussi apprendre à les faire parce que c'est une nécessité tout simplement, et puis que ça fait partie des compétences. C'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir un peu ton retour et ton regard sur ce qui comment faire pour que ça soit le moins douloureux possible.
En fait, déjà, il faut partir du principe que l'erreur est fréquente. Elle est, je crois, d'ailleurs inévitable. Et qu'il y a peu de souplesse de l'administration face à nos erreurs. Donc, il faut l'admettre passer outre. Ensuite, moi, j'ai fait le choix de m'entourer d'un expert comptable, notamment, et d'un avocat qui pour mes contrats.
Je précise qu'en plus, Quentin travaille dans un secteur où il y a beaucoup de propriétés intellectuelles, oui. Donc c'est vrai que juridiquement, c'est assez important de savoir se faire entourer. Donc j'imagine que très tôt, tu étais obligé de te faire entourer.
Oui, tout à fait. Mais je tiens à préciser que ça n'évite pas l'erreur. Comme j'en ai fait les frais cette année.
Donc un de tes conseils, c'est malgré le fait qu'on cherche des personnes de qualité avec lesquelles travailler, on contrôle et on surveille.
En fait, c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est que, alors en effet, toute la partie administrative n'est pas ma zone de confort, que j'ai l'impression que je suis bête sur ces sujets-là, que j'ai découvert que je n'étais pas plus que les autres, et surtout que de toute façon, c'était absolument nécessaire de ne pas laisser la totalité de ce travail à quelqu'un, qu'il faut absolument double-checker. J'ai la chance d'avoir ma sœur est directrice financière, donc ces choses-là c'est plus sa zone de confort que la mienne, et surtout j'ai la chance qu'elle soit attentive au sort de son petit frère, donc elle m'aide beaucoup aussi dans ces démarches-là. Mais ouais, non, franchement c'est pas facile, et surtout quand on commence son entreprise, on a envie de se dédier à ses clients, à son activité, à s'assurer un rythme de vie. Enfin, on a plein de contraintes et qui sont de l'ordre de vraiment la vie. Enfin, d'un truc un peu fondamental. Et c'est vrai qu'on aimerait que les choses soient plus simples. Ça n'est pas le cas, donc il faut faire avec.
Pour changer de sujet et parler de choses un petit peu plus joyeuses, si tu avais une personne que tu pouvais rencontrer. Vivante, décédée, peu importe, une personne historique, même peut-être Mickey, je sais pas, une personne qui n'a jamais existé. Est-ce que tu y as réfléchi ?
Je crois. Alors, j'aurais vraiment aimé rencontrer René Lalique, par exemple. Ça avait l'air d'être un personnage vraiment à part. Un homme qui vivait dans son temps, mais qui était au-delà de son temps. Ça avait l'air d'être un homme libre aussi. Voilà, j'aurais aimé le rencontrer.
Ça fait plusieurs fois que tu utilises le mot libre, donc je suis désolée, mais je vais être obligée de rebondir dessus, parce que là, ouais. Tu me tends trop de perches. Pour toi, c'est la valeur la plus importante, la liberté ?
C'est pas la valeur la plus importante, parce qu'une liberté... En fait, la liberté en soi, une liberté vide, ça n'est... n'est pas vraiment satisfaisant. Je trouve que, en fait, justement, c'est un peu ce que je découvre avec cette nouvelle manière de faire mon métier, mais la liberté, il faut l'habiter. En effet, ça, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de vivre avec la liberté des autres aussi. C'est probablement ce qui est de plus difficile à faire.
indépendamment de là ton travail actuel en tant que consultant, j'aimerais revenir un petit peu sur quelque chose qui est pas forcément dans ce cadre-là, pas forcément chez la Ligue, pas forcément chez Boucheron, mais un échec. Je trouve ça toujours intéressant. Un échec qui t'aurait appris quelque chose. Pas juste un échec difficile, pas juste un échec dont t'as envie de parler, mais quelque chose où t'en aurais vraiment tiré un enseignement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit?
Non.
C'est clair, non, tu n'as jamais vécu d'échec.
Non, alors pas pour cette raison-là, parce que bien sûr, il y a des choses que je ne suis pas arrivé à faire et des choses où j'aurais aimé mieux
des
faire.
Des erreurs, le mot échec est assez dur, je trouve.
En fait, je trouve que, voilà, c'est ça. Ce que j'aime pas dans le mot échec, c'est qu'il y a quelque chose de très solennel et de très définitif. Comme si c'était irrémédiable, comme si c'était quelque chose qui vous avait fait rater notre vie. En fait, je suis assez fataliste dans ma manière de vivre et je trouve que à partir du moment où on fait les choses avec implication, avec honnêteté, en fait les choses se font ou les choses ne se font pas, les choses se font bien ou les choses se font mal. Et l'expérience m'a montré que je retombe sur mes pattes après et que c'est toutes les choses que je ne suis pas arrivé à faire ou que j'ai mal fait prennent un sens, m'apprennent quelque chose. Donc en fait, j'ai pas du tout ce regard un peu solennel, ni d'ailleurs dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a des choses dont je suis fier, mais je ne valide pas ma vie en fonction de mes échecs ou de mes succès. C'est quelque chose auquel je suis assez étranger. Je vois pas les choses comme ça. Je mesure mon plaisir, je mesure ma tristesse, mais j'apprends en fait surtout des choses qui marchent pas comme je voudrais, quoi.
Bah Quentin, merci mille fois pour tout le temps que tu m'as consacré. Ça m'a fait très plaisir de faire cette interview avec toi. En plus, je pense qu'on est rentré pas mal dans le vif du sujet au niveau de tout ce qui est design, notamment design de joaillerie, même si je pense que c'est beaucoup plus large que ça. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup touché que tu acceptes de faire cette interview. Donc, je t'en remercie. Si jamais des personnes qui écoutent ce podcast ont envie de te... Alors, peut-être pas de te contacter, mais en tout cas de te suivre.
Oh, si elles veulent me contacter, ça va être
plaisir. De te découvrir un peu plus, comment font-elles ?
Elles peuvent me retrouver sur mon Facebook, c'est quand même le plus simple. Mon nom, donc Quentin Obadia, sur Instagram aussi. Et voilà, je ne te donnerai pas mon numéro de téléphone ni
non,
mon adresse.
Non, tu fais bien, mais donc Facebook et Instagram, ouais. Quentin Obadia. Et on peut quand même le dire, ton chien, donc un compte Instagram également.
Et mes voitures aussi, d'ailleurs.
Ah, je ne le savais pas, donc
mais
j'apprends des choses.
Il y a quelques apparitions, ouais.
Très bien, très bien.
D'ailleurs, il faut absolument donner l'Instagram d'Igor.
Je te laisse le faire, c'est le moment ou jamais.
Alors, ça doit être Igor _ Lacroque, donc Lacroq. Voilà, c'est
merci.
Mon chien.
Donc, si vous ne voulez pas suivre Quentin, vous pouvez tout à fait suivre son chien, qui a un très beau compte. Presque plus beau que celui de Quentin, je pense qu'on peut le dire. Donc voilà, en tout cas, je mettrai tout ça dans mes petites notes dans le podcast. Merci mille fois, Quentin, d'avoir passé autant de temps avec moi et à très bientôt.
À bientôt.
Avant de vous quitter, quelques points en plus. Premièrement, si vous souhaitez contacter Quentin, parler vieille Porsche des années 80 ou simplement voir les notes de cet épisode, c'est simple. Allez directement sur le site du podcast, c'est www.podcast-6-crème-de-la-crème.com. Je répète, www.podcast-6-crème-de-la-crème.com, rubrique podcast bien sûr. Vous verrez, je vous ai fait un petit résumé de l'épisode avec les grands points à retenir, le contact de Quentin, bien sûr, de son chien Igor, ce qui est le plus important, et puis aussi plein de photos de belles bagnoles parce que Quentin m'a demandé de le faire. Deuxièmement, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire directement sur Twitter ou sur Instagram, ou même d'ailleurs dans les commentaires du blog. Sur Twitter et sur Instagram, ça sera avec le pseudo Pelaigneo, donc c'est Pelaigneau. C'est mon nom de famille et là c'est très facile et je répondrai rapidement. Je suis vraiment preneuse de vos feedbacks, donc n'hésitez pas. Et enfin, je ferai pas ça à chaque fois, je vous rassure, mais si l'épisode vous a plu, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de le partager et surtout de laisser des avis sur iTunes. Ça prend 2 minutes, je sais que c'est embêtant à faire, mais ça fera une grosse différence, donc ne vous privez pas. Encore mille merci pour votre écoute, j'espère sincèrement que l'épisode vous a plu, et je vous dis à dimanche en deux pour un nouvel épisode de Crème de la Crème.